dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 3 septembre 2021. Vous êtes bien sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons du retrait de l'armée américaine en Afghanistan. Le président américain Joe Biden a repoussé mardi les critiques concernant la gestion par son administration du retrait militaire de l'Afghanistan. Dans un discours télévisé prononcé depuis la Maison-Blanche, M. Biden, au pouvoir depuis janvier, a déclaré que le retrait des militaires américains d'Afghanistan s'est soldé par un succès extraordinaire. Pour autant, et de l'aveu même du président américain, la guerre en Afghanistan a coûté aux contribuables américains pas moins de 2 000 milliards de dollars en deux décennies, soit 300 millions de dollars par jour. Plus grave encore, de nombreux Américains y ont laissé leur vie, y compris les 13 soldats américains morts dans un attentat suicide à l'aéroport de Kaboul. Cet attentat qui a fait au total 85 morts a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique au Khorasan. Les troupes américaines sont entrées en Afghanistan en 2001 pour chasser du pouvoir les talibans en raison de leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11 septembre 2001. Donc, 20 ans après, les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan et les Américains ont plié bagage. Nous analysons et débattons de tout cela dans cette émission avec nos invités. Accompagné au cours des prochaines minutes, nous avons dans le New Jersey le professeur Bernard Ekel de Princeton University. Il est par ailleurs directeur de l'Institut d'études transrégionales. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
À Sherbrooke, au Québec, Sami Aoun, il est professeur émérite donc à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Sami Aoun.
Bonsoir à vous et à votre invité.
Ici, c'est dans la région de Washington, D.C., nous avons René Lec, il est journaliste et analyste politique. René Lec, bonsoir.
Bonsoir, John.
Nous allons commencer par vous, Bernard Ekel. Quel commentaire vous faites de ce discours de Joe Biden sur le retrait de l'armée américaine en Afghanistan?
En fait, c'est une défaite totale des États-Unis, une défaite qui n'est pas seulement celle de Joe Biden, mais en fait de toute l'administration depuis l'époque de George Bush, le fils. C'est-à-dire que même si l'armée américaine peut gagner sur le champ de bataille, elle n'arrive pas à gérer un pays pour réformer la politique d'un pays étranger et à dépenser énormément de sommes sans aucun résultat. Pas seulement ça, mais les Américains ont laissé à peu près 85 milliards de dollars d'équipements militaires qui sont maintenant dans les mains des talibans. Donc le président Biden vraiment n'a pas été franc avec le peuple américain sur la défaite et la perte énorme, symbolique et aussi militaire des États-Unis.
René Lec, Bernard Ekel parle d'échec, de défaite. Le président américain, lui, qualifie ce retrait de succès extraordinaire. Vous, quel est votre avis?
Écoutez, c'est toujours une question de perspective, vous savez, John. Si on se place d'un point de vue de la fin de la guerre en Afghanistan, de la plus longue guerre dans l'histoire des États-Unis, oui, c'est ce que le peuple américain souhaite. L'opinion publique américaine est du côté de Biden sur cette question-là. Elle soutient à très large majorité le retrait. Donc de ce point de vue, d'un point de vue historique, mettre fin à cette guerre-là aura quelque chose de populaire. Maintenant, la question de savoir la manière dont le retrait s'est fait, là, il est évident qu'il est difficile de parler de succès, en tout cas dans les premiers jours. Mais même en ce qui concerne le retrait, si l'on se base sur le chiffre de 120 000 personnes qui ont été évacuées en moins de 15 jours, effectivement, il y a quelque chose de remarquable puisque historiquement, cela ne s'est jamais fait. Donc, effectivement, tout dépend de la perspective que l'on veut mettre en avant.
Sami Aoun, parlons des évacuations, justement. Y avait-il un autre moyen de mieux organiser ces évacuations que ce qu'on a vu à Kaboul?
Oui, certainement, le débat n'est pas sur le retrait américain en tant que tel. Ça a été décidé, et ça a été décidé par l'ensemble des administrations américaines. Et ça remonte presque aussi au temps de président Obama. Alors la question, dans la mise en exécution, ici il y a eu un dérapage, ici il y a eu une mauvaise préparation et manque de prévision. Est-ce que c'est la faute pratiquement à la classe politique, à la présidence Biden, puisqu'il est le responsable ultime, ou aussi c'est dû peut-être à une évaluation, une piètre évaluation des risques et des dangers par les responsables de la sécurité. Ça, c'est un point important. Mais l'évacuation en tant que telle, elle est vraiment impressionnante en ce sens que c'est quelque chose de rare. Il n'y a pas une autre puissance sur le globe terrestre qui est capable de faire une évacuation à cette hauteur-là avec vraiment à un certain moment, elle est massive. Mais si on revient à l'idée de question des critères de l'échec et de la victoire, dans les guerres asymétriques et dans les guerres en général avec leurs différentes typologies, il est très difficile de dire où est le gain, où est la victoire, et c'est là cette question de perception, mais en plus de question d'évaluation objective. Sur ce sens, les Américains ont été défaits par eux-mêmes et non pas avec des batailles rangées contre les talibans à titre d'exemple qui réclament victoire. Depuis 2 ans à peu près, il n'y a aucun soldat américain qui a été décédé ou blessé. Et il n'y a pas eu des batailles rangées avec les talibans. Donc la question de victoire ici est plutôt symbolique. Et maintenant, question primordiale, les Américains ont mis 2 objectifs. 1, se débarrasser de Al-Qaïda, ce qui a été presque fait ou largement fait. Mais l'autre, la démocratisation et intégrer des valeurs de la modernité et de la modernisation, certainement c'est un échec.
Bernard Ekel, l'attentat de l'aéroport de Kaboul a été revendiqué par le groupe djihadiste et État islamique au Khorasan, cet attentat qui a eu donc au dernier jour des évacuations. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe et qu'est-ce qui le différencie en fait des autres branches du groupe État islamique?
En fait, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser 2 choses. D'abord, en 1990, quand l'Irak a envahi le Koweït, l'Inde, c'est-à-dire le pays de l'Inde, a pu évacuer 178 000 Indiens du Koweït vers l'Inde. Donc, en fait, il y a un précédent qui est encore plus impressionnant que celui de Kaboul, là, récemment, avec les 120 000. Deuxièmement, je dirais que l'évacuation et le retrait des Américains auraient dû se faire différemment, c'est-à-dire d'abord faire sortir tous les ressortissants, tous les Afghans qui avaient aidé les Américains, d'abord, et pas après le retrait des soldats, parce que les Américains ont dû relancer les soldats vers l'Afghanistan pour pouvoir faire cette dernière retraite. Et finalement, Al-Qaïda est toujours présente en Afghanistan et même présente en force. La différence maintenant, c'est que est-ce que les talibans vont permettre à Al-Qaïda de lancer des attaques contre les États-Unis et contre l'Occident à partir de l'Afghanistan? Là, il y a une grande question sur quelles sont les intentions des talibans, parce qu'eux peuvent contrôler Al-Qaïda dans l'Afghanistan. Et maintenant, je voulais dire tout simplement que l'État islamique du Khorasan est assez différent d'Al-Qaïda et des talibans. L'État islamique du Khorasan est allié avec l'État islamique qui a existé en Irak et en Syrie. Il y a une idéologie qui est féroce et qui vise d'autres musulmans qui ne partagent pas le credo ou les croyances de l'État islamique. Ils visent surtout les chiites et aussi des musulmans qu'ils considèrent comme mécréants parce que c'est des gens qui font des alliances avec l'Occident ou qui gèrent leur pays d'une manière qui est considérée non islamique. Donc, par exemple, l'État islamique du Khorasan considère les talibans comme des mécréants, comme des musulmans qui sont égarés dans l'erreur et donc des cibles qu'on peut attaquer, qu'on peut tuer.
René Blake, lorsqu'on a vu ce qui se passait à Kaboul, en Afghanistan, beaucoup ont vite fait de faire un parallèle avec l'Afrique. Est-ce que, selon vous, il y a un message que les talibans envoient aux groupes terroristes qui se développent ces dernières années sur le continent africain?
Oui, il est difficile de ne pas faire le lien, notamment en particulier au Sahel. Au fond, le message, c'est quoi? C'est un groupe de quoi 80 000 guerrieros talibans ont pu vaincre la première puissance mondiale, militaire et économique de tout point de vue. Et donc, quelque part, il y a là un message assez clair, c'est qu'il est extrêmement difficile pour les pays occidentaux, aussi puissants sont-ils, de résister à des forces dans le cadre d'une guerre asymétrique, si en particulier les occidentaux utilisent des moyens classiques tels que l'invasion, la force militaire à tout va. En réalité, ce qui est mis en avant ici, et personnellement j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est que la question de la gouvernance, elle est centrale. L'échec des États-Unis en Afghanistan, ce n'est pas seulement un échec militaire, un échec stratégique, mais c'est également et avant tout un échec de type de gouvernance. Les Américains ont soutenu, malheureusement, les pays qui sont dans les systèmes d'invasion le font régulièrement, la France, et notamment en Afrique francophone. Ils les travaillent et imposent aux populations des régimes qui sont à 100% dans une dynamique de servitude vis-à-vis d'eux. Et en général, de tels pouvoirs politiques sont des pouvoirs corrompus et donc qui n'ont pas le soutien des populations. Donc c'est l'absence de soutien de population des alliés américains en Afghanistan qui a perdu l'Amérique et qui a perdu au fond la confiance des Afghans. Et c'est la même chose que l'on voit se reproduire en Afrique. Très rapidement, John, la précision par rapport à la différence par rapport à 1990 avec l'Inde. L'Inde, cela a mis deux mois, c'était du mois d'août au mois d'octobre en 2010. Ici, on parle d'une évacuation de 120 000 personnes en l'espace de 15 jours. On n'est pas dans les mêmes proportions, à mon avis.
D'accord. Sami Aoun, est-ce qu'il est possible d'envisager une reconstitution ou tout au moins une renaissance d'Al-Qaïda avec ce retour des talibans en Afghanistan?
Certainement, il est très difficile de prédire, mais dans les talibans version 2, il y a fortement peut-être un certain espoir de dire que les talibans, puisque ce sont différentes factions, à vrai dire, il y a des factions qui sont modérées, qui ont eu une bonne expérience, qui veulent encore conserver le pouvoir. Alors, à ce moment, ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs du passé quand ils dominaient entre 1996 et 2001. Est-ce que vraiment il y a un pouvoir central à l'intérieur des talibans? Parce qu'il y a une faction, surtout le réseau Haqqani, qui est presque en fusion avec Al-Qaïda et qui sont derrière eux appuyés par les services de renseignement pakistanais, le ISI. Pratiquement, alors cette faction, on ne sait pas quel serait son poids à l'intérieur de la décision des talibans. Surtout que Jalaluddin Haqqani et son frère Anas ont déjà participé, mais on ne sait pas exactement quelle orientation vont prendre. L'autre point que vous êtes en train de citer, celui de Daesh ou l'État islamique. Alors oui, comme le professeur Haïkal l'a très bien dit, il y a une animosité idéologique, doctrinale, malgré qu'ils appartiennent les deux à la même source nourricière du djihadisme. Mais il y a un point qui fait la différence. Pour les talibans, ils sont plutôt souverainistes, territorialistes. C'est un mouvement plutôt nationaliste afghan, tandis que Daesh ou l'État islamique sont plus internationalistes, avec aussi cette idée qui est frapper l'ennemi lointain, donc au-delà des frontières de l'Afghanistan, et former un califat, donc un État plutôt islamique, utopique, qui embrasse l'espace musulman. Il y a de nouvelles aspirations chez les jeunes Afghans qui sont nés pratiquement après le gouvernement taliban. Donc, dans les dernières vingtaines d'années, il y a quand même 60 à 65% du peuple afghan qui ne connaissait pas le premier dictat des talibans et qu'ils aspirent maintenant. Ils sont plus connectés avec le monde. Peut-être qu'ils aspirent à autre chose. Le plafond va rester les États islamiques, soit le modèle pakistanais, soit le modèle qatari, soit le modèle iranien, soit le modèle saoudien. Il n'y a pas à espérer quelque chose plus dans une démocratie libérale.
Restons dans le domaine de la sécurité avec Bernard Ekel. Vous vivez dans le New Jersey, pas très loin de New York. Le 11 septembre est devant nous et chaque fois que cette date approche, on a en tête ces attentats qui continueront de marquer l'histoire du terrorisme aux États-Unis. Est-ce que l'Amérique est plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a 20 ans?
Oui, je crois que les attentats du 11 septembre seraient très difficiles à reproduire aujourd'hui parce que d'abord, il y a une vigilance, il y a des systèmes de sécurité qui existent, qui n'existaient pas avant et qui rend ce genre d'attaque presque impossible. Aussi, il y a tous les services de sécurité des pays du monde musulman, du monde arabe, de l'Europe, etc., qui surveillent les djihadistes partout. Le champ de manœuvre de ces gens est beaucoup plus restreint qu'avant. Aussi, je crois qu'on a toujours le risque de ce qu'on appelle en anglais un lone wolf, c'est-à-dire un individu qui prend la violence au privé et qui va essayer d'attaquer des gens comme on l'a déjà vu en Allemagne, en France, même aux États-Unis. Donc ça, ce genre d'attaque individuelle, que ce soit une personne ou deux, je crois qu'il y a toujours ce risque qui existe ici aux États-Unis et comme ailleurs.
René Lex, si les Américains sont allés en Afghanistan, in the first place, si on peut dire, c'était pour combattre Al-Qaïda. Et en 20 ans de guerre, les États-Unis déplorent au moins 2500 morts et ont englouti environ 2313 milliards de dollars, selon une étude de la Brown University. Au final, on a envie de vous demander, qu'est-ce que les Américains ont gagné dans cette guerre, puisque même la réputation de grande puissance militaire semble avoir été écorchée?
Oui, tout à fait, John. On a envie de dire tout ça pour ça. J'ai fait le calcul, John, et les plus de 2200 milliards de dollars, c'est l'équivalent de l'actuel budget annuel d'un pays comme le Sénégal cumulé pendant plus de deux siècles et demi. Donc, c'est pour vous montrer que ce sont des sommes colossales. Donc, oui, on se demande, mais tout ça pour ça, c'est à quelque chose de tragique à cela. Mais encore une fois, je crois que ça met clairement en lumière que les stratégies occidentales d'invasion dans le reste du monde, en tout cas, telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, ne sont simplement pas viables. Et que la question de ce que j'appelle un peu dans une interview, je parlais d'un peu de la pensée unique qui gère les questions de relations internationales et de stratégie internationale, l'Occident devrait y réfléchir. Par exemple, je vois, j'ai beaucoup travaillé avec le département d'État, l'USAID, le Pentagone, quelque part. Si vous n'êtes pas dans le moule de la pensée unique qui prévaut, le système pratiquement ne vous tolère pas et vous éjecte. Bien que dans le cas d'espèce, il y a quand même eu les 23 diplomates du département d'État sur place à l'ambassade de Kaboul qui avaient fait un mémo de dissidence expliquant qu'ils ne partageaient pas du tout la stratégie à ce moment. Bon, c'était peut-être un peu tard, ça concernait essentiellement la question de l'extraction des Afghans et du personnel, mais quand même. Donc tout ça pour dire que les mécanismes de diversité, quand on parle de diversité au plan politique, sur les questions du genre, etc., il faut aussi en parler d'un point de vue des politiques. Donc la diversité, c'est toujours une bonne chose. D'avoir des voix dissidentes, c'est toujours une bonne chose. Ça permet d'éviter des erreurs qui peuvent être colossales et dont le coût humain peut être absolument catastrophique.
Bernard Hegel, quelles pourraient, à votre avis, être les implications de ce retrait américain ici aux États-Unis, notamment avec les élections de mi-mandat qui arrivent ou encore un peu plus loin, la présidentielle de 2024?
Écoutez, je crois que d'abord, la faute ou la défaite américaine, disons, la faillite américaine, elle est aussi chez les républicains qu'elle soit chez les démocrates. Donc, un sénateur républicain qui critique Biden, c'est vraiment de la politique et c'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que vraiment tout le système américain, l'élite américaine, en ce qui concerne les affaires étrangères en Afghanistan, dans le monde arabe, dans le monde musulman, ils ont jusqu'à maintenant dépensé plus de, je crois, 6 trillion. Et en fait, on voit très peu pour tout cet argent. Je crois que c'est pour cela que le peuple américain, qu'il soit de droite ou de gauche, veut et la fin de ces guerres interminables dans le monde musulman. Donc, pour Biden, je crois qu'il a bien lu le peuple américain, c'est qu'ils ne veulent plus de soldats à l'étranger, surtout pas en Afghanistan et en Irak. Et peut-être que ces images d'un processus chaotique va être oublié d'ici quelques mois et que les démocrates vont pouvoir être élus et encore. Mais je crois que, en fait, les élections, enfin, ici aux États-Unis, sont surtout basées sur des considérations domestiques et surtout économiques et pas vraiment sur la politique étrangère. Je crois que cet épisode avec l'Afghanistan va être assez vite oublié.
Et quelque chose qu'on ne devrait pas oublier, c'est qu'il y a encore entre 100 et 200 Américains qui sont encore en Afghanistan, que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre une catastrophe humanitaire en Afghanistan en réclamant notamment des fonds pour ce pays après le départ des forces américaines. On va faire un dernier tour de table très vite, si vous le pouvez. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afghanistan, la situation même sur place et même au niveau interne ici, la manière dont les Américains gèrent la politique internationale et militaire? Je vais commencer par vous, René Lay.
Écoutez, John, il y a paradoxalement, j'ai envie de dire, une sorte de convergence possible d'intérêts entre les talibans et les États-Unis. C'est justement cette lutte anti-terroriste, puisque les talibans sont les ennemis jurés de ISIS-K et vice-versa. Donc il y a là peut-être un levier sur lequel l'Amérique peut s'appuyer pour obtenir, notamment, vous faisiez allusion aux Américains qui sont encore sur place et qui voudraient partir, éventuellement quelques alliés afghans. L'Amérique a encore quelques moyens de pression. Tout à l'heure, l'un de vos invités parlait du Pakistan. L'Afghanistan, c'est quelque part un peu l'arrière-cour du Pakistan. Donc les États-Unis ont des moyens de pression contre le Pakistan. Cela également peut aider. Donc je crois que l'engagement américain en Afghanistan va se poursuivre d'une manière complètement différente, dans des données complètement différentes, mais quand même l'Amérique aura encore quelques moyens de pression sur les talibans parce qu'ils ont un intérêt commun. L'Amérique pourrait partager des informations en matière de renseignement, d'espionnage et autres, et même d'intervention chirurgicale contre ISIS-K, et donc ce serait dans l'intérêt des talibans de coopérer avec l'Amérique.
Bernard Hegel, en quelques mots, la suite.
En fait, moi je crois que les talibans sont pas monolithiques, hein, c'est plusieurs groupes. Tout va dépendre en fait de l'influence du Pakistan sur les talibans. Je crois que tôt ou tard, c'est les Pakistanais qui vont avoir un pouvoir assez important et hégémonique en Afghanistan. Tout ça dans l'avenir va être dominé et contrôlé par la Chine et le Pakistan.
Sami Aoun, en quelques secondes.
Oui, je crois que l'Afghanistan va retourner soit un champ de bataille, de guerre de procuration entre les pays du voisinage, Pakistan aussi, il ne faut pas l'oublier, l'Inde en quelque sorte, mais certainement pour la stratégie américaine, ce serait un maillon important pour peut-être freiner l'expansion chinoise via ce qu'on appelle la voie de la soie.
C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentation et réalisation John Linden, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.